Vous écoutez RTL.
RTL Soir.
On refait le monde, Marc-Olivier Faugiel.
19h18 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec le politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse. Bonsoir Roland Cayrol.
Bonsoir Marc-Olivier.
Avec le directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Bonsoir Jean-Christophe Buisson.
Bonsoir.
L'écrivain Philippe Besson. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Et un petit nouveau, Geoffroy Lejeune, rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles et auteur d'une élection ordinaire chez Ring. Bonsoir Geoffroy
Lejeune. Bonsoir Marc-Olivier.
Vous avez intérêt à être bon, hein. Vous avez de la concurrence.
J'ai l'impression.
Vous avez l'impression. Il paraît que vous êtes très bon.
Faux. À la radio, très mauvais.
Ah bah alors, ah, merci, alors, au revoir. Au revoir, Geoffroy. Sur l'échiquier politique, il paraît que vous êtes très très à droite. Hein.
Ça, c'est vrai.
on va vérifier. La machine à couac semble donc repartir depuis une semaine pour le gouvernement. Et le dernier en date, donc la ministre du Travail, Myriam El Khomri, piégée par une question ce matin sur BFM TV. Elle n'a pas su le nombre de fois où un CDD était renouvelable. La réponse, c'est 2 depuis août dernier. À ses proches, elle reconnaît avoir merdé. À droite, on invite la ministre à mieux bosser ses dossiers. Mais vous avez entendu tout à l'heure Brice Hortefeux, hein, plutôt mesuré quand même, ne l'accablant pas. Et pour vous, c'est une grossière erreur ou un buzz absurde? Erreur de casting, Myriam El Khomri? Ou pas du tout? On s'excite pour pas grand-chose sur les réseaux sociaux. Benoît Galeret de LCI, bonsoir.
Bonsoir. Je me remets pas de la bourde d'El Khomri. C'est pas un buzz ou un petit truc, c'est juste hallucinant. Ministre du Travail, quoi, écrit Henri. Et sa consternation est assez partagée. Marie-Claude tout de même plaint cette pauvre femme manipulée par Bourdin pour faire de l'audience. Dès qu'il voit une brèche, il s'y engouffre. Quelle honte. Bah, autant quand il demande le prix du pain ou du ticket de métro, je dis pas. Mais là, c'est quand même pas un piège. C'est la base quand t'es ministre du Travail, rétorque Thomas. C'est surtout la dernière mesure prise par son prédécesseur. Et on se demande encore pourquoi l'abstention est le premier parti de France, s'énerve Muriel. Le responsable, c'est Hollande, qui nomme des brels depuis 2012 pour des raisons de tambouille interne, accuse Clémoun. Je l'avais dit à sa nomination, elle récupère le ministère du Travail alors qu'elle a un master en droit public et aucune expérience dans le privé, confirme Linda. Preuve flagrante, du peu d'intérêt que porte ce gouvernement au peuple, soupire Poivron. Sanchez relativise. Dans tout boulot, il y a un ou deux mois d'essai. Madame El Khomri n'a pas potassé ses fiches. L'erreur est humaine. Non, conclut Nicolas, c'est une honte de ne pas connaître le code du travail, surtout quand on prétend le réécrire.
Roland Cayrol, vous qui en avez vu d'autres. Ah oui, ça tombe sur vous pour commencer, c'est ça pour ça que vous faites. Je vous rappelle qu'on vous voit sur RTL.fr en vidéo, hein, donc quand vous avez un peu haussé les épaules, c'est aïe.
Écoutez.
Défendable.
Je voudrais d'abord donner un conseil aux dirigeants politiques.
N'allez pas chez Bourdin.
N'allez chez Jean-Jacques Bourdin que si vous êtes là depuis 10 ans, que vous avez potassé tous vos dossiers et que vous avez la langue de bois. Là, vous pouvez y aller. Mais sans quoi, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Elle a eu tort, cette jeune ministre dans cette fonction, d'aller dans ce piège.
Bienvenue chez Olivier Mazerolle, tous les matins.
Mais écoutez, pourquoi pas, par
exemple. Pourquoi pas, évidemment, c'est pas ça que j'attendais de vous, pas que vous disiez pourquoi pas, évidemment.
Oui, non, je l'ai vu avec plus d'enthousiasme, je dirais, ben en effet, c'est ça la bonne solution.
Ouais, voilà.
Alors, cela dit, bon, une bêtise, cela dit, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais elle commence par dire 3 fois, plusieurs fois. Bon, ça a changé 20 fois, et il y a d'ailleurs des tas d'exceptions à la règle que lui a rappelé Bourdin, qui permettent en effet d'avoir plus de CDD que 2 fois. Donc 3 fois de renouvellement. C'est une petite bourde. Ce qui est devenu incroyable, c'est que des petites bourdes comme ça fassent notre actualité. Mmh. Il se passe quand même des tas de choses fondamentales ou importantes dans ce pays dont on ne parle pas. Parce que dans cette espèce de jet continu de l'information, on ne s'arrête qu'à ce qui peut faire le buzz, ce qui dérange un petit peu, ce qui fait une petite pierre dans l'eau. Moi, je trouve que ça commence à faire beaucoup.
C'est pas l'avis de Jean-Christophe Buisson, manifestement. Je pense que c'est presque un drame national pour Jean-Christophe.
Vous n'avez pas le droit de minimiser comme ça, parce que ce sujet-là, c'est le sujet le plus important pour les Français, en l'occurrence le travail. Il y a 3 millions de chômeurs en France. Donc ce n'est pas un sujet léger, ce n'est pas un sujet à traiter à la légère. Quand le ministre du Travail ne sait pas combien de fois peut être renouvelé un CDD, alors qu'on emmerde tous les petits patrons pour la moindre ligne qui rate dans leur contrat et qui leur coûte X centaines, milliers d'euros, on n'a pas le droit de faire ça avec une telle légèreté. Mais ce n'est pas tant elle que j'accablerais, sinon dans sa réaction après en disant « je suis sereine » comme si tout ça n'était pas grave. Ce que j'accablerais plus, c'est effectivement Hollande et Valls, qui d'une part la nomme il y a 3 mois, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est d'origine maghrébine, parce qu'elle est femme et que ça fait bien dans le décor, et qu'en plus ça permet avec les équilibres.
Vous savez tout ça,
c'est un enfant de. Oh bah ça se sait quand même qu'elle est femme, non?
Oui,
c'est la raison de sa nomination.
C'est pour ça qu'on l'a nommée.
c'est gros comme une maison, parce que c'est, non, manifestement, alors, c'est pas sur ses compétences, puisqu'elle ne sait pas combien de drones.
Ah, vous êtes trop fort, vous êtes trop fort pour moi.
Oui, oui, c'est comme ça, je suis désolé.
Donc
j'accablerais plutôt Hollande et Valls de l'avoir choisi pour ça, pour de mauvaises raisons, et aussi pour des raisons d'équilibre politique, parce qu'elle est, elle est de l'écurie de Bertrand Delanoë, donc ça permettait de mettre quelqu'un de cette aune-là dans le gouvernement, et de l'envoyer au CASPIP, au ministère le plus important, qui est le ministère du Travail, et ensuite de la renvoyer à nouveau au CASPIP chez Bourdin, et là je suis totalement d'accord avec vous, on n'envoie pas quelqu'un qui a aussi peu d'expérience chez Bourdin, qui est un grand fauve, qui n'attend que ça pour mordre ses invités. Voilà, c'est tout.
Oui, alors moi je voudrais juste rappeler que en 2007, Nicolas Sarkozy ne connaissait pas le nombre de sous-marins nucléaires d'attaque et qu'il est devenu chef des armées 2 mois plus tard.
On remonte jusqu'où, Philippe?
Non,
2007, c'était
on peut continuer. Je suis votre raison.
Non, mais là, on parle de Myriam El Khomri, vous me balancez Sarkozy.
Si la ministre du Travail n'est pas apte à exercer son métier parce qu'elle ne connaît pas un point du Code du Travail...
J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'on n'a pas le droit de traiter ça avec légèreté.
Eh bien, donc, à ce moment-là, vous auriez dû dire que le chef des armées, c'est un peu ennuyeux qu'il ne connaisse pas le nombre de sous-marins nucléaires.
Il l'était pas encore.
Geoffroy vous dit qu'il ne le connaissait pas encore.
C'est d'ailleurs ce que Jean-Christophe nous a dit pendant 5 ans ensuite.
Ensuite,
Sarkozy n'était
pas au niveau. Il
n'était pas encore chef des armées. Vous faites remarquer Geoffroy Lejeune.
Je rappelle qu'en 2012,
ça vous intéresse pas ?
Je vais pas répondre, Philippe.
Non, mais NKM, qui était candidate à la mairie de Paris, pensait que le ticket de métro coûtait 4 euros. Donc on peut. Et par ailleurs, Jean-Jacques Bourdin en 2013 pensait que le RSA était à 500 euros. Par ailleurs, moi je demande pas au ministre de la Santé, pour revenir à Khomri par exemple, de pratiquer la chirurgie cardiaque. Ça veut dire que je ne demande pas donc au ministre du Travail de connaître la totalité du code du travail.
La totalité qu'on lui demande.
Non mais par exemple, vous êtes journaliste, Jean-Christophe. Quel est l'article du code du travail qui régit votre statut ?
Ben c'est ce que j'allais vous demander. C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est que dès que vous êtes arrêté par la police, on vous dit nul. Vous êtes censé ignorer la loi.
C'est le même raisonnement. Qui régit
sauf que je ne suis pas ministre du Travail.
Quel est le code du travail qui régit votre statut de journaliste?
Je ne suis pas ministre
c'est
du Travail.
C'est l'article L761.2. Quelles
saviez,
sont les trois
vous
conditions
le saviez,
Non,
il y a deux
parce
heures.
Que moi, je ne suis pas journaliste. Et je suis allé le voir. Quelles sont les trois conditions qu'il faut pour être journaliste? Il faut que ça soit votre occupation principale, régulière et rétribuée.
Vous êtes écrivain, vous voulez qu'on parle de la Société des gens de lettres, Philippe?
Vous ne le savez pas.
Le règlement de la Société des gens de lettres.
Jean-Christophe, je comprends
pas. Philippe, vous voulez qu'on parle de la Société des gens de lettres qui régit votre.
Plaisir.
Alors, que dit l'article 4 de la Société des gens de lettres, Philippe ?
Je vous dis donc, vous exercez le métier de journaliste et vous ne connaissez pas les règles de votre métier. C'est bizarre. Arrêtez
mais
de
faire. Je ne suis pas à la tête de l'association de la presse française.
Non, mais ça veut dire qu'avec ce type de raisonnement, on arrive à n'importe quoi.
C'est vous qui dites
donc,
n'importe
évidemment.
Quoi.
Donc,
je suis pas en responsabilité politique, pardon. Ça me paraît plus important d'être ministre du Travail qu'un modeste journaliste de la presse française.
Mais
je ne suis pas ministre. Mais c'est discréditer la fonction de ministre de parler comme ça. Comparer un ministre à un pauvre journaliste, vous vous rendez compte ?
Ah, vous ne mettez pas du journaliste. C'est bien, ça ne pas être sur le même niveau. C'est bien.
Geoffroy, à vous, allez-y.
J'ai du mal à m'interposer dans ce débat houleux. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que je suis évidemment d'accord avec Jean-Christophe sur le fait que la bourde est un peu impardonnable. Mais je vais vous dire, je vous rends hommage puisque vous êtes très brillant pour défendre Myriam El Khomri. En revanche, vous êtes d'une mauvaise foi abyssale. C'est incroyable à ce niveau-là. Mais je me suis habitué. Maintenant,
pourquoi ?
Parce qu'on a déjà débattu ensemble sur une autre chaîne et je sais comment vous fonctionnez. Vous êtes très brillant, mais de mauvaise foi. Maintenant,
sur le sujet,
parce que vous parlez de NKM. De Nicolas Sarkozy, les exemples sont très bien choisis pour nous prouver que finalement tout ça n'est pas si grave. Moi je vais vous dire.
Non, mais que tout le monde connaît les erreurs, oui.
Non seulement, bien
c'est
sûr.
C'est pas pour ça que c'est pas grave.
Non seulement.
Mais, et pourtant ils ont exercé ses responsabilités.
Cher Philippe Besson,
c'est pas pour ça que c'est pas grave.
Mais oui, Christophe, est-ce qu'à l'époque vous avez dit que Nicolas
j'étais
Sarkozy.
J'étais pas là
était
à l'époque.
Pas, est-ce que vous l'auriez
trop
dit
trop jeune.
Alors je vous réponds, est-ce que vous l'auriez dit?
Peut-être.
Très bien.
Ouais,
eh bien, nous entendons donc que Jean-Christophe
peut-être.
Buisson, directeur de la rédaction du Figaro Magazine, dit que Nicolas Sarkozy n'était pas apte
mais vous
à diriger.
Vous croyez que j'ai jamais dit du mal de Nicolas Sarkozy quand je pensais qu'il le méritait.
Un ton en dessous et on entend Geoffroy.
En fait, le vrai sujet n'est pas celui-là, parce que finalement, la bourde de ce matin, elle la sauve quasiment. Myriam El Khomri, elle est venue faire la promo des annonces de Manuel Valls hier sur le Code du Travail qui nous expliquait, et ça, je ne sais pas comment vous allez pouvoir le défendre, qu'il allait écrire le Code du Travail du 21e siècle et révolutionner la France. Il a parlé de révolution.
Il a fait des.
Voilà,
très bonne révolution.
Oui, donc.
Ce débat-là, on l'a eu hier, hein, réformette ou révolution.
Je ne veux pas remettre ça sur le débat, c'est juste que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une réforme qui aura lieu après 2017, donc qui vraisemblablement n'aura pas lieu, en tout cas qui entrera en application après 2017. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que, en fait, ce gouvernement, comme d'ailleurs la plupart des gouvernements, malheureusement, fait de la communication. Et quand on fait de la communication, il vaut mieux aller chez Ruquier ou chez Bourdin, parce que c'est là qu'aujourd'hui se passe le débat politique, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, Roland Quirol.
C'est un débat médiatique, mais pas politique.
Sauf que c'est comme ça, ils sont obligés de faire comme ça. Ils savent très bien que les annonces ne servent à rien, il faut aller chez Bourdin. jardin pour que tout ça prenne de l'importance. Donc elle y va. Et quand on fait de la communication, il faut être bonne en communication, ce qui manifestement n'était pas le cas. C'est ça le problème.
Allez, on s'arrête là et on change de sujet, si vous voulez bien. Manuel Valls qui ferme la porte à une promesse historique de la gauche, le droit de vote des étrangers. On en débat dans un instant.
RTL Soir.
On refait le monde, Marc-Olivier Faugier.
19h32 sur RTL, on refait le monde avec Geoffroy Lejeune, Philippe Besson, Jean-Christophe Buisson, Roland Quayrol. Engagement numéro 50 de François Hollande en 2012, j'accorderai le droit de vote aux élections locales aux étrangers résidant légalement en France depuis 5 ans. 3 ans plus tard, Manuel Valls enterre cette promesse, elle ne sera pas mise en œuvre et je suis convaincu qu'elle ne sera pas reproposée à la prochaine élection présidentielle parce qu'elle tend inutilement et que ce n'est plus le sujet. Dit-il. Alors la gauche doit-elle accorder ce droit de vote aux étrangers ? Sur le fond, vous êtes pour ou contre sur les réseaux sociaux, Benoît ?
C'est très partagé. D'un côté, Torchwood qui s'écrit « Un étranger étant par définition étranger à notre pays, il doit pas pouvoir y décider quoi que ce soit. » Point. De l'autre, Nabil qui soupire « Quelle déception sans fin que ce PS au pouvoir !» Michel explique que pour tenir son engagement, Hollande aurait dû faire modifier la Constitution. Or, il a perdu le Sénat et un référendum serait du pain béni pour le FN. Il aurait fallu s'y mettre en 2012. Et encore, beaucoup confirment d'ailleurs, comme Steph, qu'adopter cette position actuellement, c'était juste donner des voix en plus au FN. Europe Écologie Les Verts tweet au contraire que c'est ce genre de renoncement qui nourrit la montée du populisme. Pour faire tiers, ça prouve surtout qu'il y a deux pilotes dans l'avion, Camba et Valls, pas d'accord sur la trajectoire et Hollande qui laisse faire. Le crash, c'est maintenant. Va tout témoigne de nationalité française. Je vis à l'étranger en Norvège et j'y ai le droit de vote. Il me semblerait évident que la réciproque puisse s'appliquer. Jean-Philippe renchérit. Luxembourg, Belgique, Suède, Danemark, Finlande, Pays-Bas l'ont fait. Israël accorde le droit de vote municipal, y compris aux résidents palestiniens. Éric concède, ça arrivera. Mais heureusement qu'ils ne l'ont pas fait maintenant, car ça aurait été le FN direct au pouvoir. Je termine avec un dessin publié par Mann. On y voit Valls creuser la tombe du vote des étrangers et Hollande lui glisser « Enterre-le, mais pas trop profond. Hein. On va devoir le ressortir pour 2017. »
Philippe Besson, ce recul du gouvernement
sur oui, il n'y a aucun doute. Oui. Moi, ça me rend triste. Je peux pas vous dire autre chose, ça me rend triste. Je me suis pas bercé d'illusions, je savais bien que ça finirait comme ça, à la fois pour des raisons qui sont techniques, c'est-à-dire qu'on sait que ça nécessite une révision de la Constitution. Cette révision de la Constitution s'est faite soit auprès du Congrès, donc il fallait les 3/5, et la gauche n'a pas 3/5, évidemment, des suffrages dans un Congrès, donc elle n'a aucune chance d'être votée par la voie parlementaire, ou alors après par la voie référendaire, et on sait que le basculement s'est opéré d'ailleurs récemment, puisque en 2011, il y avait encore 60% des Français qui étaient favorables au droit de vote des étrangers, et aujourd'hui, il y a 60% des Français qui sont hostiles, si on le croit les sondages, mais enfin, a priori, je pense qu'ils ne se trompent pas trop sur ce sujet, qui sont hostiles au droit de vote des étrangers. Donc, il n'y avait pas de fenêtre, donc ça devait se finir comme ça. C'est un renoncement de plus et c'est triste. Après, je trouve ça triste parce que je trouve que c'est une mesure d'égalité et de justice. Je rappelle juste quand même que les Européens, les communautaires, d'accord, qui sont installés dans notre pays, ils ont tout à fait le droit de voter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un Belge de passage ou un Allemand de passage chez nous a le droit de voter, mais qu'un Africain qui est installé chez nous depuis 40 ans de manière tout à fait régulière et qui paye ses impôts en France, lui, il n'a pas le droit.
Parce qu'il y a la réciprocité.
Oui, d'accord, mais je trouve ça extrêmement choquant.
Pourquoi ils ne vont pas la nationalité française dans ce cas-là ?
Parce qu'on la donne très peu, vous avez noté.
Si on l'installe depuis 40 ans, on la donne. Hein. S'il la demande, il l'aura.
100 000 naturalisations par an, on est avant que tous les étrangers en situation régulière puissent voter.
Pas des gens qui sont installés depuis
40 ans. Non, mais on parle d'étudiants. D'étrangers installés depuis plus de 5 ans. A priori, c'était ça la proposition 50.
10 ans, je crois.
Je crois que c'était 5 ans et Camba a parlé de 10 ans. Ouais. Mais je crois que c'était 5 ans dans la proposition 50. Voilà, donc je trouve ça juste dommage parce que c'est une mesure de justice, me semble-t-il.
Mesure de justice pour vous, Geoffroy Lejeune ?
Non, moi je suis contre. Moi je considère que le droit de vote est indissolublement lié à la nationalité. Je considère que
Vous pensez que les Belges ne peuvent pas voter ?
Bah, moi, je suis contre, en fait.
D'accord.
Absolument. Je suis absolument contre. Vous avez raison de le souligner. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est c'est ce qui se passe politiquement. C'est Manuel Valls qui renonce pour la raison que vous avez énoncée.
Non, mais sur le fond, les reculs du gouvernement, on en a beaucoup parlé sur le fond de la mesure.
Je pense que c'est l'unité de la nation française est suffisamment abîmée pour qu'on n'en rajoute pas une couche. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche les gens qui ont envie de devenir français, qui aiment la France, etc., de demander la nationalité, de l'obtenir et de participer?
La difficulté à l'obtenir.
Non, c'est pas vrai. C'est pas une vraie raison. On veut abîmer un petit peu plus ce qui nous unit, ce qui continue de nous unir malgré toutes les difficultés, en disant en gros, vous n'avez pas besoin d'être français pour voter. Finalement, à quoi ça sert d'être français dans ce pays ? Si on peut voter sans être français, à quoi ça va servir d'être français ?
Les Français par naissance sont 90% de la population. Hein, donc avant qu'on soit perturbé par des gens à qui on donnerait le droit de vote simplement parce qu'ils sont étrangers, et là depuis des années, c'est pas très grave.
C'est une question de principe et de philosophie.
Ça endommage en rien notre identité.
On explique que finalement, ça ne sert à rien d'être français. français, puisque si on est étranger, on peut aussi voter.
Moi, être français, c'est vivre en France et participer à la vie de la nation, c'est le vivre ensemble.
Bah non, c'est être de nationalité française. Et c'est aimer la France, accessoirement.
Bah, je sais pas, cette question de la nationalité, moi, elle me paraît secondaire par rapport à la question de aimer ce pays-là, essayer de le faire vivre et vivre ensemble. Mais c'est deux notions différentes, oui.
Mais ça peut aider d'avoir la même situation.
Moi, je crois que...
Voilà. Ça peut aider,
d'abord,
je
dis pas c'est que c'est une vieille histoire. Hein. Chaque fois que la gauche arrive au pouvoir, elle a ça dans son programme et elle le fait jamais.
Ah, depuis 1981.
Oui. Vous n'avez pas marre d'être cocu?
Pardon?
Vous n'avez pas marre d'être cocu? Parce qu'à chaque fois, vous faites avoir. Vous croyez que ça va être fait et ça n'est jamais fait.
Ah, on ne croit plus que ça va être fait. Hein, mais...
Non, mais ah, moi, bon, je n'ai jamais cru que ça serait fait. Jamais. Parce que je connais cette gauche-là et je sais bien qu'elle cédera, finalement.
Toujours.
Soit il y a l'explication purement institutionnelle. Qu'est-ce que vous voulez? On aimerait bien le faire, mais il n'y a pas de majorité au Parlement pour le faire.
Ce qui est techniquement vrai, hein, mais bon.
Ce qui est techniquement parfois vrai.
C'est un faux nez.
Parfois vrai, qui n'a pas été toujours vrai dans l'histoire de la gauche au pouvoir. La vérité, c'est qu'on a peur. On a peur du Front National. On a peur de Valeurs Actuelles.
Non, mais
on a peur du Figaro Magazine.
On n'a pas peur.
On a peur de ce qui fait aujourd'hui.
On ne fait pas peur à grand monde à Valeurs Actuelles, vous savez, on veut supprimer nos aides à la presse. Donc,
l'ensemble de ce magma de la droite qui fait aujourd'hui la loi.
Roland Carlos, c'est pas
les deux en même temps.
Qui fait la loi sur le plan intellectuel.
Mais le gouvernement n'a pas peur, monsieur, excusez-moi, de Valeurs Actuelles et du Figaro Magazine. Il a peur des Français. Les Français sont contre.
Non seulement le gouvernement.
Oui, il cède à l'opinion.
Voilà,
le gouvernement cède à l'opinion.
C'est plutôt une bonne nouvelle en démocratie.
Le gouvernement, mais l'opposition démocratique et républicaine ont peur devant cette espèce de dérive et devant la montée en France de la xénophobie et du racisme.
Mais c'est pas ça.
Mais en 80, quand le Mitterrand ne le fait pas, il n'a pas peur du Figaro Magazine.
Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport avec la citoyenneté. Le droit de vote aux élections nationales
allez-y sur le fond,
est réservé aux Français.
Oui.
Il s'agit du droit de voter à des gens qui, localement, aux élections locales et seulement à celles-là, aux gens qui habitent depuis 5 ans dans ce territoire.
Mais c'est le pied dans la porte, c'est le début.
Qui payent leurs impôts. Mais c'est ça, tout est le pied dans la porte de la catastrophe.
Absolument.
Arrêtons cette espèce de
vision. Ça se passe toujours comme ça.
Ça se passe toujours comme ça. De l'extrême droite. Où, quand, comment ça s'est passé comme ça?
Mais c'est très discriminatoire.
Sous Pinochet, oui.
Mais non, c'est très discriminatoire. Sous Pinochet. Je vais vous dire pourquoi.
Comment c'est discriminatoire? C'est au contraire reconnaître, encore une fois, comme on le fait pour les citoyens européens, reconnaître aux citoyens non européens le droit de participer à la vie locale pleinement, alors qu'ils sont par ailleurs assujettis à l'ensemble des règlements, y compris fiscaux, de cette vie locale.
La suite dans un instant.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
Et on reprend donc notre débat sur ce droit de vote des étrangers avec Roland Cayrol. Philippe Besson, Geoffroy Lejeune et Jean-Christophe Buisson, vous trouviez Roland Cayrol discriminatoire?
Mais oui, parce que lorsque son argument consiste à dire que des gens qui sont installés, des étrangers qui sont installés depuis longtemps en France, 5 ans ou 10 ans, et qui payent leurs impôts locaux, auraient droit de vote à une élection locale, c'est bien ça que
local,
vous dites?
Local, oui.
Et ces gens-là, ils ne payent pas des impôts nationaux? Alors, au nom de quoi vous leur interdisez le droit de vote national dans ce cas-là?
Au nom du fait que dans ce pays, comme dans tous les pays européens, la citoyenneté est liée en effet au droit de vote national.
D'accord, bah nous sommes d'accord, donc c'est pour ça que...
Mais on parle d'élection locale.
Là, on parle d'élection locale.
Mais, oui, mais c'est de la discrimination de considérer que si l'argument des impôts est celui que vous avancez pour
les impôts, c'est une chose parmi d'autres.
Mais est-ce que c'est pas discriminatoire aussi de dire à des étrangers...
Parce que c'est aussi le fait de payer l'impôt qui fait la citoyenneté.
A contrario, est-ce que c'est pas légitimer la discrimination que de dire à des gens qui sont là depuis 40 ans dans ce pays, qui sont intégrés, qui travaillent dans ce pays, qui ont un salaire, un contrat de travail...
Ces gens-là, s'ils sont tellement heureux de vivre en France, ils prennent la nationalité française. Rien ne les en empêche.
Ça, on a compris. Philippe Besson vous dit que c'est pas possible.
La naturalisation, c'est un choix individuel, c'est un choix intime.
Absolument.
Là,
j'espère bien.
Oui, alors que le droit de vote, c'est un choix collectif, c'est une décision collective. Donc ça n'a rien à voir, On ne peut pas comparer les deux.
Je ne suis pas d'accord. Non, je considère que c'est le.
On ne peut pas comparer un choix individuel et intime avec un droit collectif. C'est pas du même.
Qu'est-ce qui vous dérange tellement?
Le vote, c'est un acte individuel.
Qu'est-ce qui vous dérange tellement dans le fait qu'on demande à ces gens-là de devenir français s'ils veulent partager?
Ça ne me gêne pas du tout. Ça me gêne
pourquoi
pas
vous n'êtes pas d'accord avec nous alors?
Parce que c'est un droit pour eux de vouloir rester aussi fidèles à leur origine.
Vous voulez leur accorder le fait d'avoir les mêmes privilèges que les Français, mais leur garder le privilège
de voter, de faire vivre la démocratie.
Vote en Norvège ou vote à Londres, ça vous choque alors?
Mais non, parce que
Français qui est installé à Londres depuis des années, qui est à la City, etc., et qui vote à Londres, ça vous choque? Il n'a pas le droit de voter là-bas.
Je vous ai dit que j'étais contre ça.
Non, non, vous n'avez pas dit ça pour l'instant. Vous avez dit que vous étiez contre que les Belges puissent voter en France. Vous n'avez pas dit que les Français puissent voter à l'étranger.
Je suis contre aussi. C'est la réciprocité. Moi, je suis contre ce principe.
Et moi, je pense que de toute façon, c'est au peuple de décider, au peuple français actuel de décider. Effectivement, le référendum me paraît la moins mauvaise des solutions.
Pour rassurez-vous, il n'y en aura pas.
Ben voilà. Mais je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée de demander au peuple français ce qu'il pense de donner le droit de vote aux étrangers
général,
sur les élections locales.
Le peuple français, il répond à une autre question que celle qu'on lui pose.
Enfin, là, on sait très bien ce que le peuple français.
J'ai absolument confiance au peuple français, mais je note quand même qu'à chaque fois qu'on lui a posé une question par référendum, il a répondu à autre chose. Par exemple,
sur la Nouvelle-Calédonie, le référendum sur la Nouvelle-Calédonie, ça a répondu parfaitement à la question.
En 1969, je n'ai pas eu l'impression que les Français avaient répondu à une question sur le Sénat. Ils avaient plutôt répondu à une question sur voulez-vous vous débarrasser de De Gaulle. D'ailleurs, ils ont répondu oui.
Moi, je parlais du référendum.
Qu'on se débarrasse de De Gaulle ou pas, moi j'en sais rien. En 2005, je pense que sur le référendum sur l'Europe, ils ont répondu à autre chose aussi. Donc voilà, c'est ces choses-là, il faut s'en méfier.
Donc, il faut pas faire de référendum.
Mais non, mais sur le fond, est-ce qu'il faut vraiment. Non, voilà, c'est la question. Est-ce qu'il faut faire un référendum? Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas? Alors je sais que techniquement, c'est pas possible, mais prendre des décisions courageuses contre l'avis des Français?
Ça a déjà été fait dans le passé, encore une fois. Quand Mitterrand abolit la peine de mort, les Français sont majoritairement favorables à la peine de mort. Il le fait pourtant.
Et aujourd'hui, des années après?
Eh ben, ils sont encore plus favorables à l'abolition de la peine de mort. Donc effectivement, ils pourraient essayer de le faire.
Il faut du courage politique.
Et la gauche en manque. Simplement, ce que je n'aime pas dans cette affaire, c'est le cynisme électoraliste de la gauche qui se sert de cette promesse avant chaque élection, quand elle est dans l'opposition, en disant on va donner le droit de vote aux étrangers.
Là, au moins, ça a le mérite d'être clair, puisque Manuel Valls, à 18 mois de l'élection présidentielle, dit qu'il ne le fera pas. Donc, il ne va pas nous le resservir la prochaine fois.
Il y aura peut-être un autre débat. Pourquoi Manuel Valls
vous pouvez lui reconnaître, si je suis logique avec vous-même.
Sauf si c'est stratégique, il veut se faire tellement détesté de François Hollande que François Hollande lui dise de s'en aller.
Oh là là là. Ce qui est passionnant, c'est la réponse de Cambadélis. Pardon, Cambadélis qui le même jour dit non, ça reste une préoccupation du PS, un sujet principal, etc. Et pourquoi il fait ça, Cambadélis? Ce droit de vote des étrangers, c'est
gauche.
C'est le chiffon rouge. Aujourd'hui, la gauche ne peut s'unir plus que sur les sujets sociétaux. Si vous regardez qu'est-ce qui va rester de ce quinquennat qui mettra d'accord tout l'électorat de gauche, il restera le mariage pour tous et éventuellement le droit de vote des étrangers. Pourquoi Cambadélis, pour lui, c'est une catastrophe?
Je trouve qu'il y a pas mal d'autres choses, qui seront discutés dans la prochaine campagne présidentielle, y compris la politique que certains à gauche, y compris une politique que certains à gauche condamnent sur l'aide aux entreprises, la compétitivité française.
Mais je parle d'unité de la gauche. L'unité de la gauche se fait sur les sujets sociétaux.
Mais c'est le peuple qui est le juge.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que Cambadélis se fiche pas mal du peuple. Ce que veut Cambadélis, c'est unir sa gauche.
Mais il est secrétaire d'un parti par sa culture militante.
Absolument, exactement. C'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que il agite ce chiffon rouge en espérant que le candidat de la gauche, vraisemblablement Hollande, en 2017, fera le meilleur score au premier tour et peut-être éventuellement sera réélu grâce à ce genre de totem.
Bah si il croit ça, il regarde pas bien les enquêtes d'opinion.
Mais si, c'est pour sa gauche, c'est très intelligent de sa part. Mais c'est un signe électoraliste absolument invraisemblable. Mais bon.
Franchement, si c'est là-dessus qu'il devait gagner, ça se saurait. Je pense, hélas, que ça n'est pas vrai.
Allez, l'affaire Benzema, l'affaire Valbuena, c'est dans un instant sur RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde, Marc-Olivier Fauchier.
On refait le monde à 19h49 sur RTL avec Philippe Besson, Jean-Christophe Bisson, Geoffroy Lejeune et Roland Quérol. Vous avez entendu tout à l'heure sur RTL Paul Le Guen qui a lancé Benzema à Lyon. Karim n'est pas un voyou, c'est quelqu'un. Qui rigole.
C'était nerveux.
C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Oui. Je ne l'imagine pas initiateur. Son ancien joueur est ce soir donc mis en examen pour complicité dans l'affaire de chantage à l'encontre de Mathieu Valbuena. Mais que dit l'affaire Valbuena et l'implication de Benzema du milieu du football sur les réseaux sociaux, Benoît?
Rappelons que tant que Michel Platini ne lui a pas apporté son soutien, Karim Benzema est présumé innocent, commence Eric. Plus sérieusement, Camille se dit choquée et on dirait que Valbuena le soutient. Donc j'espère que Benzema a vraiment fait ça sans vouloir faire de mal. Ça peut pas être l'affaire Benzema, une arnaque à 150 000 euros. Qu'est-ce qu'il s'en fout, lui? Il touche 8 millions par année, c'est Tom Breakdown. Mais il y a tous ceux qui n'ont jamais aimé Benzema, le traite de racaille et cervelé. Si on est enfin débarrassé de lui en bleu, ça c'est le pied, applaudit François. Il refuse de chanter la Marseillaise. Mais le voilà maître chanteur. Bravo, Grain Servé. Il doit absolument quitter l'équipe de France dont il a sali le maillot, s'énerve Tala. Il y a un véritable racisme caché dans cette affaire et une certaine jalousie pour les fils d'émigrés qui réussissent, soupire au mou. Ouais, et puis c'est vraiment injuste de le critiquer alors qu'il vient enfin de trouver le chemin des cages, conclut Alexis.
Ça faisait longtemps qu'il le cherchait, oui.
Philippe Besson, vous qui êtes pour la présomption d'innocence, tout ça, etc. Vous avez entendu tout à l'heure l'avocat de Karim Benzema expliquer que Mathieu Valbuena ne l'avait pas chargé auprès des enquêtes.
Et d'ailleurs, on va commencer effectivement par dire cela. Qu'effectivement, il y a. Mais si on dit ça, il faut qu'il n'y ait pas de débat.
on arrête le débat.
Mais comme je vous ai entendu rire...
Parce que ce qui m'intéresse, en fait, dans cette affaire, en disant qu'effectivement, on ne sait pas s'il est innocent ou coupable, qu'on le sera sans doute jamais, ou peut-être à la fin, enfin, on verra, c'est qu'au fond, cette histoire...
On devrait le savoir, si, à un
moment donné.
Cette
histoire, elle est, au fond, à la confluence de tout ce qu'on reproche au foot français. C'est comme une espèce de tout en un. C'est-à-dire qu'on a le cul, le fric, les rivalités, la malhonnêteté, tout ce qu'on reproche au foot français. Alors le cul, on l'avait déjà eu avec Zaha, Ribéry et d'ailleurs le même Benzema. Le fric, on l'a avec Blatter, Platini, l'UEFA, tout ça. Les rivalités, on les a avec Ribéry, Gourcuff, l'affaire du bus en Afrique du Sud, etc. Tout ça. La malhonnêteté, on l'a avec les matchs truqués, les dessous de table. Bon, tout ça au milieu d'argent facile, de gloire rapide, d'agents véreux. Enfin, c'est absolument merveilleux, le tableau général du foot français.
Vous voulez dire que c'est révélateur de tout ça?
Oui,
c'est peut-être faux, mais en tout cas, c'est révélateur de tout ça.
C'est peut-être faux, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si on avait voulu tout mettre dans une même affaire avec cet épisode supplémentaire. Et je comprends pourquoi les gens aiment tellement le rugby.
Mais tout en aimant beaucoup le football aussi.
Oui, mais les valeurs du rugby sont quand même d'une toute autre nature que celle du foot.
Il y a quelques histoires de fesses et d'argent dans le rugby aussi. Hein.
Oui, mais il y a quelque chose quand même qui est plutôt de l'ordre de la fraternité, pas forcément de la rivalité, du beau jeu plutôt que des coups tordus dans le rugby que dans le foot. Je ne sais pas si vous serez d'accord sur ça, non?
Oui. Oui, alors évidemment, il est mis en examen. Moi, j'espérais qu'il échapperait à la mise en examen, non pas pour Benzema ou parce que je ne sais pas s'il est coupable ou pas, mais pour l'image justement du foot, pour l'équipe de France.
Oui, c'est un clou supplémentaire sur le cercueil.
Et à la limite pour le Real Madrid, voilà, tout ça est quand même assez rude parce que quand même un magistrat instructeur a dû estimer qu'il y avait suffisamment d'indices
sur la base des
concordants permettant de le mettre en examen. Donc c'est quand même un très sale coup pour l'image immédiate de Benzema, peut-être pour son futur sportif, peut-être pour son maintien dans son club actuel. C'est un problème aussi, parce que Valbuena et lui n'ont plus le droit de se rencontrer, donc a fortiori pas en équipe de France. Bon. La raison pour laquelle, évidemment, ça trouble, c'est qu'on voit ce qu'est devenu le football. Je ne vais pas redire ce que vient de dire très bien Philippe Besson, mais cette espèce de pompe incroyable à fric et à ascension sociale démesurée pour des gamins qui viennent de milieux défavorisés. Et nous savons que ces gamins qui gagnent 1 million d'euros par mois, qui se déplacent avec des limousines absolument incroyables, ils ont souvent gardé des copains qui viennent de ces quartiers défavorisés, qui ont été élevés avec l'idée que si on vendait pas du shit, on pourrait pas gagner sa vie et qui ont continué. C'est pour ça qu'il y a toujours ce soupçon que, même si on sait pas si c'est vrai, il y a cette idée que si c'est pas Benzema, ça en sera d'autres, mais que c'est vraisemblable. Ça donne de cette image du football et de cette fausse ascension terrifiante par le pognon une image détestable.
Et ce pauvre Benzema, est-ce qu'il ne prend pas pour tous les autres, Geoffroy Lejeune?
Ça fait plusieurs fois qu'il est un peu dans le collimateur quand même. On retrouve son nom, dire l'affaire Zaïa, c'était quand même lui aussi. Enfin, il était dedans. Est-ce qu'il prend
dans l'affaire Zaïa?
Dans l'affaire.
Pour préciser, c'est qu'elle a
merci.
Voilà, on s'est regardé avec Marc-Olivier, on s'est dit tiens,
il s'est dévergondé. Déjà, Geoffroy Lejeune.
On a l'esprit mal tourné.
Il devient tout rouge, en attendant.
Honnêtement, j'aurais jamais osé faire une
affaire. Jamais.
Problème. Allons-y. Il reste 2 minutes.
Maintenant, voilà, c'est marrant, je suis à 1000% d'accord avec Roland Kayrol et Philippe Besson. Et en effet, ce qui est choquant, ce qui est frappant, c'est que l'ancien agent de Karim Benzema dit des choses assez intelligentes en expliquant en fait que c'est en effet l'entourage de Benzema. Et ce qui se passe quasiment dans tous les cas, c'est que ces types qui, en général, la plupart du temps, en gros, viennent de banlieue et s'en sortent grâce au foot, sont entourés d'un espèce de grappe de gens autour d'eux qui leur prennent de l'argent.
C'est leur entourage initial, d'ailleurs.
Absolument. Ils ne changent pas d'amis, etc. Absolument. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'en fait, longtemps on a dit que le foot était un ascenseur social, et longtemps aussi, les jeunes des banlieues ont cru que, en gros, on s'en sortait par le foot ou alors par le rap, ou alors on pouvait pas s'en sortir. La vérité, c'est qu'en fait, non, on gagne énormément de pognon, mais on s'en sort pas. Le problème central de tout ça, c'est le problème des valeurs, et on refuse absolument de reconnaître que le foot a perdu ses valeurs et qu'aujourd'hui, quand Karim Benzema ne chante pas la Marseillaise, tout le monde trouve ça normal. Moi, je pense que le problème, il commence là, en fait. C'est à ce moment-là qu'il faut dire. Je pense que c'est le même problème, c'est un problème global et qu'il aurait fallu réagir à ce moment-là.
Personne ne chantait la Marseillaise dans aucun match. Et on trouvait ça tout à fait normal.
Allez, on termine par vous,
Jean-Claude.
C'est des modes. Je suis d'accord avec Geoffroy Lejeune pour dire que cette génération est quand même sacrément gratinée parce qu'on a l'impression qu'elle est mal polie, qu'elle est arrogante, qu'elle baigne dans l'argent. Néanmoins, concernant Benzema, il a grandi à Lyon, qui est un club qui fait très attention à ça, qui encadre énormément ses joueurs. Et donc, les clubs font un maximum d'efforts, justement, pour éviter ce genre de choses. Donc, je voudrais pas que cet événement soit trop grossi. Et surtout, le remettre en perspective historique en quelques secondes. Souvenez-vous, en 74, la demi-finale de la Coupe du Monde, Pays-Bas-RDA, les Pays-Bas l'emportent. Il y a une histoire, il y a exactement le même scandale avec Johan Cruyff, que raconte très bien Sheriff Gamour dans la biographie qu'il vient de publier. Il y a une histoire dans une piscine avec, avec des filles, avec de l'argent, un photographe qui veut vendre la photo. Donc ça existe depuis toujours dans le football, ce mélange. Simplement, aujourd'hui, c'est démultiplié. Un, par l'argent qui est beaucoup plus important qu'il y a 40 ans, et deux, parce qu'on est dans une société du spectacle et qu'à l'époque c'est des photos dans la Bild Zeitung et qu'aujourd'hui c'est des sextapes et
dans
des
vidéos entier.
Voilà, mais c'est quand même quelque chose qui est assez consubstantiel au foot.
Merci à tous les quatre, donc merci à Geoffroy Lejeune, à Philippe Besson, à Jean-Christophe Bisson et à Roland Kayrol. Dans un instant, le flash de 20h avec Quentin Vinet,
je crois, en tout cas que c'est Quentin.
Ménia Fachin, c'est pas Quentin Vinet, c'est Ménia Fachin. Et non, il a travaillé très tôt, puisque justement il était devant le palais de justice toute la nuit en attendant Karine Benzema. Donc il est parti se coucher. Et vous êtes là, si Denis Bonnec et Thomas Hugues.
Oui, on est là.
Bien réveillé,
j'espère.
Comment ça va? C'est raisonnable d'aller dormir après toute une journée de planque.
Ouais, une nuit même. Donc là, normalement, il devrait dormir, le petit Quentin. Et donc au sommaire.
Et si on l'appelait pour vérifier?
Allez, appelons-le.
On va voir à sa voix, on va entendre sa voix si elle est endormie ou pas. C'est un peu sadique, hein, cette idée, franchement.
Au sommaire de la curiosité, les amis.
Eh oui, du bon James Bond.
Mais côté auteur, côté Ian Fleming, on va s'intéresser au créateur de James Bond. On s'est demandé, mais qui l'a inspiré pour créer ce personnage d'espion? Vous allez voir, quelqu'un de très très proche.
À tout de suite, donc après le flash de 20h, journée spéciale James Bond demain sur RTL. Vous êtes toujours là? Oui, apparemment. Allez, tombez. À tout de suite.